Deutsche Welle. Droits et libertés.
De par sa situation géographique en bordure de Méditerranée, proche des côtes turques, la Grèce est l'un des pays européens où les arrivées de migrants étaient les plus massives ces dernières années. Les autorités ont prévu de fermer le plus de camps d'accueil possible et de reloger près de 10 000 personnes d'ici la fin 2017. Certains logent à l'hôtel, d'autres ont pu prendre leur quartier dans des appartements. Reportage cette semaine à Thessalonique, la deuxième plus grande ville du pays, pour voir comment s'organise la cohabitation des Grecs avec leurs nouveaux voisins venus d'ailleurs. Également au menu cette semaine, le débat sur la charia et le droit allemand. Au micro, Sandrine Blanchard, bonjour à tous. Chaque samedi, Fatima vient faire ses courses sur le marché de Thessalonique. Fatima a 40 ans, elle est syrienne, réfugiée en Grèce. Elle a été évacuée il y a 3 mois du foyer d'accueil où elle était hébergée avec sa famille en banlieue. Elle a eu de la chance d'être relogée dans un appartement du centre-ville. Les commerçants connaissent sa situation et lui proposent souvent des produits à coût réduit.
Quand je ne trouve pas un mot en anglais, j'essaie de le dire en grec, parce que j'ai appris quelques mots de grec et ça aide. J'ai rencontré aussi plein de gens qui apprennent l'arabe. Ça me fait très plaisir quand on me dit shukran, alhamdulillah ou salam alaikum.
Giannis Spirou est commerçant, il vend des herbes et des épices. Et comme il a désormais des clients irakiens et syriens, eh bien il a adapté son étalage à leurs besoins.
Ils mangent plus épicé que nous. Ils achètent beaucoup de cumin et de coriandre. On a été épatés de voir que la plupart d'entre eux parlent parfaitement l'anglais. Et ils apprennent le grec aussi. Ils sont amenés à rester. Ce n'est pas une mauvaise chose. On a de la place ici.
Après avoir fait les courses, Fatima, son mari et leurs 3 enfants préparent à manger dans leur appartement nouvellement aménagé. Leur quotidien n'a plus rien à voir avec celui du foyer où ils étaient hébergés quelques mois plus tôt.
J'ai une vraie vie maintenant, une vie organisée. J'amène mes enfants à l'école, après quoi je vaque à mes occupations à la maison. Ensuite, je vais dans un foyer de réfugiés, je prends des cours de grec, je rencontre mes amis. Et puis je vais faire les courses, je me débrouille toute seule. C'est plus facile qu'avant.
Près de la moitié des camps d'accueil pour migrants du nord de la Grèce ont été fermés ces 6 derniers mois. Lene Veide dirige le bureau du Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés à Thessalonique. Elle explique comment le HCR essaie d'aider les migrants délogés à se reloger et à devenir indépendants grâce au soutien d'ONG. À titre de comparaison, en juillet 2016, on avait plus de 20 000 personnes logées dans des centres d'accueil gérés par les pouvoirs publics. Ils ne sont plus que 3 000.
Avant de reloger des gens quelque part, nous essayons de parler avec les habitants sur place. Évidemment, on ne peut pas atteindre chaque citoyen, mais au moins les dirigeants locaux, les associatifs, le maire, etc., en fonction de l'endroit. Jusqu'à présent, l'accueil a été plutôt positif, en dépit bien sûr de certains conflits sur l'éducation des enfants et l'école. Mais pour l'instant, on n'a heureusement pas eu de problème dans les hôtels ou les appartements.
Mais l'arrivée d'enfants réfugiés dans les écoles a suscité aussi des réactions hostiles dans certains endroits, comme à Oraio Castro, une ville des environs de Thessalonique. Le jour de la rentrée des classes, un groupe d'extrême droite a manifesté devant une école. Il y a eu des échauffourées avec des contre-manifestants anarchistes. Sotiris Skandalis, directeur de l'école.
Un jeune homme a tenté de rentrer dans le bus scolaire parce qu'il croyait que des enfants de réfugiés étaient à l'intérieur. Des anarchistes l'ont attrapé et frappé. Il saignait beaucoup. Nous l'avons fait entrer dans la cour où il a reçu les premiers soins. Mais c'était au moment de la fin des cours et on voulait éviter que les enfants ne voient tout ce sang. Alors la femme de ménage a commencé à nettoyer tandis qu'on essayait de stopper l'hémorragie.
Sotiris Skandalis a reçu des menaces pour avoir accepté des enfants de réfugiés. Certains habitants ont même retiré leurs propres enfants de son école et ils se demandent de quoi ses parents avaient peur. Peut-être de voir des enfants à deux têtes, se demande-t-il en souriant jaune. Peu à peu, la situation est revenue normale. Les élèves se sont trouvés des affinités, jouent ensemble au même jeu. Et comme dit une maman croisée à la sortie de l'école, ce sont les parents qui avaient des préjugés, pas les enfants. Et puis pour terminer, nous évoquons un sujet qui défraie la chronique en Allemagne en cette année électorale, la charia, l'islam et leur compatibilité avec les valeurs de la République fédérale. Thomas de Maizière, le ministre de l'Intérieur, n'a fait que relancer le sujet en publiant récemment dans la presse ses thèses concernant la culture dominante, Leitkultur en allemand. Le ministre affirme que les Allemands seraient culturellement liés entre eux, non seulement par leur langue, leur constitution et leur respect des droits fondamentaux, mais aussi par des valeurs qui les définissent et les distinguent des autres peuples. Dans une tribune publiée dans le journal Bild am Sonntag, Thomas de Maizière liste ainsi 10 aspects fondamentaux à ses yeux de cette culture dominante allemande. Le premier point de la liste commence ainsi.
Nous avons à cœur certaines coutumes sociales, non pas pour ce qu'elles sont en soi, mais parce qu'elles expriment un état d'esprit particulier. Nous disons notre nom, nous nous saluons en nous serrant la main. Lors de manifestations, il nous est interdit de cacher notre visage.
Et ce premier point se termine par...
Nous laissons notre visage à découvert, nous ne sommes pas du genre burqa.
En 2006, déjà, le ministre-président de la Bavière à l'époque, Edmund Stoiber, avait déclenché une polémique similaire en lançant lors d'un discours devant ses partisans conservateurs de la CSU, je cite, « En Allemagne, c'est la loi fondamentale qui prévaut, pas la charia ». 4 ans plus tard, le président fédéral d'Allemagne d'alors, Christian Wolff, affirme « L'islam fait partie de l'Allemagne ». Depuis, l'arrivée massive de demandeurs d'asile de confession musulmane sur le territoire allemand et la montée de l'extrême droite en cette période préélectorale relancent donc le débat. Un débat délicat s'il en est, car facilement récupérable politiquement. Or, il n'est pas question ici d'hostilité à l'islam, mais du précepte selon lequel la foi relève de la sphère privée et que tout habitant d'un pays est soumis à ses lois, bénéficie de droits spécifiques, mais est aussi assigné à certains devoirs. Lors d'une conférence du FFGI, le Centre de recherche sur un islam global de Francfort, les intervenants ont insisté sur la difficulté de définir les termes. Charia, par exemple, ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Or, lorsqu'on se lance dans un débat de société, aussi sensible surtout, eh bien il est nécessaire de savoir de quoi on parle. Matthias Rohe, islamologue.
Pour résumer, on peut dire que vous pouvez utiliser le terme de charia à la fois pour piétiner les droits de l'homme et pour justifier la légitimité de ces mêmes droits.
Et Matthias Rohe estime que le droit allemand laisse tout à fait l'espace nécessaire aux musulmans vivant dans le pays de vivre en accord avec leur foi, tout en respectant la loi, notamment en ce qui concerne le droit de la famille. À la nuance près, ajoute le chercheur, que le droit allemand ne reconnaît ni les mariages purement religieux ou coutumiers, ni les divorces prononcés autrement que par un juge. Par ailleurs, pour Matthias Rohe, lorsque certains salafistes d'Allemagne expliquent ignorer le droit allemand sous prétexte qu'ils préfèrent se soumettre à des lois divines, il n'y a pas à ergoter. Cela constitue une attaque frontale de l'état de droit et il faut la réprimer sans embâge. Si les spécialistes ne sont pas d'accord entre eux sur la signification exacte du terme de charia, la directrice du Centre de recherche sur un islam global de Francfort, Susanne Schröter, a constaté des similitudes dans les différents milieux islamistes qu'elle a étudiés.
Il n'y a pas de grande différence juridique, même entre milieux sunnites et chiites. Prenons un exemple. Quelle que soit l'école dont la charia se réclame, vous retrouverez partout qu'elle instaure que les hommes et les femmes ne sont pas égaux. Ils sont égaux devant Dieu, mais pas dans le monde séculier, et on reconnaît certains privilèges aux hommes.
Or, Susanne Schröter observe avec une certaine inquiétude la montée des tendances favorables à un droit islamique rigoriste dans le monde. En Indonésie, par exemple, où un gouverneur chrétien a récemment été condamné pour blasphème, mais aussi en Europe, en Grande-Bretagne, en banlieue parisienne, dans des pays et des quartiers où le droit islamique a parfois pris tacitement le dessus sur le droit officiel dans certaines communautés, le droit officiel qui est celui de l'État. Dans certains quartiers, explique la chercheuse, durant le Ramadan, tout est fermé. En Allemagne aussi, la pression augmente sur les jeunes filles musulmanes dans les quartiers les plus populaires pour qu'elles portent un foulard sur la tête à l'école et qu'elles se comportent, entre guillemets, en vraies bonnes musulmanes. Sinon,
on les harcèle, on les prend en photo et puis on poste ces images sur Internet en disant aux parents que leur fille est une salope.
Et les chercheurs rappellent que cette montée de l'islam radical va de pair avec les milliards investis par les monarchies du Golfe qui essaient depuis des années d'élargir leur influence culturelle dans le monde. Pour finir, sachez qu'en Allemagne, des musulmans progressistes et des musulmans laïcs veulent s'organiser pour proposer une alternative aux organisations existantes liées à des mosquées et qui sont souvent trop conservatrices à leur goût. À Fribourg, l'islamologue Abdelhaki Urgi estime ainsi que les sourates doivent être étudiées et comprises dans leur contexte historique et non prises au pied de la lettre. Et il annonce ceci.
Nous, musulmans progressistes, allons par exemple fonder à Berlin une mosquée qui sera inaugurée le 16 juin prochain et dans laquelle l'imam sera une femme.
C'est la fin de ce magazine. Merci à Alexia Kalaji et Matthias von Hein pour les sons. Vous pouvez nous écrire à français@dw.com. Salut et à la semaine prochaine.